Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66.
Archimage 57.
Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 années.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bienvenue à l'émission Puissance Maximale, votre magazine ludique hebdomadaire, avec François Gécouillard au micro et Sébastien Léonard. Bonjour Sébastien.
Bonjour François, bonjour tout le monde.
Alors, quelle belle température. Écoutez, aujourd'hui j'ai risqué ma vie pour venir à cette émission-là. Je me suis planté dans un banc de neige, mais néanmoins, je suis là.
Je crois qu'on est vraiment rentré dans l'hiver, là, ce coup-là, c'est une certitude. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent peut-être de l'Europe, vous pouvez même pas imaginer dans quelles conditions on est en train de, à l'heure actuelle, de vivre ces moments de radio. C'est blanc partout, et je peux vous assurer que c'est une vraie tempête de neige.
Ça, il n'y a pas de doute. Et on commence tout de suite en feu avec Marc-André, alias For Glory. Bonjour, Marc-André.
Ferais-tu un peu louche?
C'est quand même technique, mais Sébastien va nous arranger ça.
On va réessayer. Est-ce que tu nous entends, Marc-André?
Bonjour, allô?
Oui.
Bonjour, For Glory. Donc, tu es un champion de jeux vidéo.
Oui, ben j'ai remporté le dernier tournoi Arcadia, ça s'appelle Cyber Canada Cup. C'est une classique qu'ils veulent faire avec du hockey virtuel à chaque année. Là. Ils veulent que ça devienne c'est un tournoi là, annuel au Canada.
Donc, t'es un athlète de hockey, sauf que du hockey virtuel.
Ben, en fait, je participe... principalement au Cyber Athlete Professional League, qui est une ligue internationale basée aux États-Unis. Je fais des tournois beaucoup aux États-Unis et à travers le monde. Ma saison principale, c'est ça, c'est le CPL World Tour. Je joue au jeu Fear sur Xbox 360, mais en gros, ce que je fais, je transfère à tous les jeux que les grosses ligues les plus prestigieuses y choisissent.
Ah oui, t'as pas un jeu à spécialiser, t'as vraiment, tu choisis vraiment celui qui fait le plus l'affaire des ligues, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le contexte du jeu solo est un peu différent que celui en équipe. Les jeux d'équipe sont principalement Counter-Strike puis Halo sur console, tandis que les jeux individuels changent habituellement à chaque année, donc les joueurs individuels, il faut qu'ils s'adaptent pour leur carrière, pour que ça dure plus longtemps, là.
Si je comprends bien, tu joues principalement à un jeu qui est un jeu de hockey, c'est ça?
Non, ben en fait, le jeu que je joue principalement, c'est un jeu Fear, c'est un jeu de shooter, c'est un FPS sur Xbox 360. Et en fait, le Arcadia, c'était un peu comme un tournoi on the side, là, un peu c'est un tournoi à côté de mon horaire normal, mais ça fait vraiment du bien de gagner ma première victoire en solo au Arcadia.
D'accord. Dis-moi, moi je suis allé voir sur ton MySpace parce que j'ai vu que tu vivais à l'heure moderne, tu avais un MySpace et j'ai pu voir les merveilleuses vidéos qui montrent un petit peu l'ambiance qui règne pendant les concours. C'est vraiment assez incroyable parce que moi je m'attendais vraiment pas à ça. La foule est en délire, vous êtes devant vos moniteurs mais en même temps on vous sent complètement électrisé. Il y a même des animateurs sur place. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ce genre de concours là?
En fait. Le concept du sport électronique, c'est vraiment de rendre les jeux vidéo plus social et compétitif. C'est à partir des LAN parties où ce que les gens amènent simplement leur console et leur ordinateur pour compétitionner. Puis ça donne des compétitions où ce que même j'ai joué au hockey pendant 10 ans, puis je peux dire que ces compétitions-là, l'ambiance qui règne dans ces compétitions-là est encore meilleure que dans le sport normal, parce que les équipes, les adversaires vraiment fraternisent entre eux autres. Puis ça rend les jeux vidéo plus social, puis plus motivant aussi, à mon avis.
Dis-moi, est-ce que tu as une idée un petit peu du nombre de personnes qui viennent à ce genre de rencontres-là, qui sont dans l'assistance et qui sont en train de crier derrière vous?
Les foules, les spectateurs sont plus communs en Corée et en Europe, mais c'est en train de se développer tranquillement aux États-Unis. Il y a notamment une ligue qui s'appelle le Championship Gaming Series qui offre 30 000 $ en salaire pour chaque joueur, où ce que les spectateurs commencent à pouvoir acheter des billets pour aller voir les matchs. Et ça commence à prendre beaucoup d'ampleur, puis je suis pas inquiet que ça va se populariser aussi au Québec, là, parce que tout ce qui se popularise aux États-Unis, ça finit par venir au Québec un jour ou l'autre. Donc.
Et toi-même, est-ce qu'il t'arrive de te déplacer aux États-Unis pour faire des tournois?
Oui, la plupart du temps, j'ai déjà été en Pennsylvanie, à Dallas. La plupart des ligues sont basées à Dallas pour une raison quelconque, donc je me déplace là régulièrement. Là, je suis présentement en attente de savoir, dans le fond, dans quel pays je vais me déplacer pour la suite du CPL World Tour, là, parce qu'il y a eu des changements à l'horaire. Mais dans le fond, c'est vraiment un truc mondial. Là.
Donc, mais est-ce que tu as l'intention de faire ça toute ta vie? Est-ce que tu as l'intention de devenir un athlète, de vivre de ça pour le restant de tes jours, peut-être?
Un rêve.
À 25 ans.
Et j'ai l'intention de jouer comme joueur au moins pendant les 5 prochaines années. Là. C'est sûr que c'est difficile de déterminer... C'est quand que les réflexes commencent à descendre un peu, si je peux dire, avec l'âge, là, mais j'ai l'intention de faire ça pour quand même assez longtemps, oui.
C'est parce que c'est assez récent quand même comme ligue, donc j'imagine qu'il ne devrait pas y avoir encore des vieux joueurs qui peuvent donner l'impression, comme dans les autres sports, de dire à partir de quel âge on commence à décroître, du style 31 ans ou 41 ans. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir ce background-là parce qu'il n'y a pas assez de recul.
Oui, ben c'est ça, en fait... Il y en a un seul qui est en train de comme tester cette limite-là, puis il s'appelle Jonathan Fatality Wendell, qui est un peu reconnu comme le Michael Jordan des sports électroniques là en Amérique et Europe. Là. Fait que lui est maintenant rendu annonceur, puis il a terminé sa carrière autour de 26-27 ans. Donc on peut penser que la limite est à peu près à cet âge-là.
Je pense qu'on peut parler aussi de Guillaume Patry, hein, le champion de Québec, là, qui est actuellement en Corée. Il a fait carrière là-bas, et puis actuellement, ben, il poursuit sa carrière en tant que joueur professionnel, joueur de cartes. Donc, je pense qu'il doit être rendu justement dans la vingtaine avancée. Donc, c'est ça. C'est pas un métier dans lequel on peut jouer très longtemps nécessairement.
C'est certain, mais. Moi, de la façon que je vois ça, c'est que je me comporte un peu comme un joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui est pas certain de faire la Ligue nationale. Donc, je continue mes études, etc. Puis, j'essaie de pousser le rêve au maximum de sport électronique, mais c'est sûr que je peux pas prévoir si ça va éclore un peu en Amérique et tout ça. Là, mais c'est ça, je me comporte un peu comme un joueur de la Ligue majeure du Québec là, qui aspire à devenir professionnel.
Dis-moi, on t'écoute là parler, puis on a vraiment l'impression de parler avec un jeune sportif. Est-ce que vraiment l'analogie va jusqu'au très très loin, disons? Est-ce que ça va jusqu'à l'entraînement? Est-ce que tu es suivi par un coach? Est-ce que c'est dans le même cadre? Est-ce que c'est aussi aussi flagrant que dans le sport?
J'ai pas de coach parce que c'est assez difficile à trouver, évidemment, étant donné que le sport est assez nouveau, donc... Des coachs qui pourraient avoir, exemple, 30 à 40 ans, ben c'est difficile à trouver, étant donné que je suis comme le premier, dans le fond. Mais oui, ça ressemble vraiment à un sport. Là. Le genre d'entraînement que je fais, c'est pas seulement jouer répétitivement là au jeu tout le temps, c'est aussi faire des exercices de réflexe. Le talent principal que ça prend pour devenir un joueur professionnel, c'est vraiment les réflexes et le hand-eye coordination, qu'on appelle, ça, c'est de travailler ses réflexes. Ça se travaille aussi par l'exercice physique, tout simplement en faisant du sport, d'exercice physique, d'avoir un peu la même concentration et santé physique qu'on prend pour...
Se mentir l'adage qui dit que les geeks doivent ne jouent jamais à des sports. Toi, tu joues, je pense, au tennis.
Ouais, c'est ça. Ben, j'ai tout le temps été un grand sportif. J'ai joué au hockey pendant 10 ans. Je joue toujours au hockey, l'été je joue au tennis et puis l'hiver je m'entraîne en gymnase, donc j'ai un peu retrouvé l'aspect aspect compétitif là, qui me manquait quand j'avais arrêté de jouer au hockey. Je l'ai retrouvé, puis est devenu encore plus grande dans le e-sport.
Là. Mais là, on t'écoute parler, puis là, on se dit, bon, c'est sûr que dans quelques années, toi, tu vas monter ta carrière, tu vas te faire un nom. Puis là, on se dit que tu vas, comme tu es le premier, tu es en train de devenir finalement, je dirais, l'entraîneur des générations futures. Tu es en train de développer des trucs, tu es en train de te mettre en place tout un réseau d'entraînement qui va te permettre de peut-être monter par la suite une ligue à l'intérieur du Québec, peut-être.
Oui, ça fait partie... Ça fait partie de mes projets. C'est sûr que pour l'instant, je suis seulement un joueur, donc c'est sûr que mon temps est quand même plus limité à l'entraînement, puis etc. Mais j'aspire vraiment à faire un coup que ma carrière de joueur soit finie, j'aspire vraiment à faire des projets, soit de créer une ligue, soit de créer une équipe professionnelle, puis un peu développer l'infrastructure là, pour le e-sport au Québec spécifiquement, parce que je pense qu'au Québec, il y a comme le monde est tricoté serré, comme on dit, là, dans tous les sports, toutes les activités. Fait que il y a vraiment de quoi à faire, là, en fait, de ligue ou de happening, là, pour les sports.
Dis-moi juste avant, peut-être qu'il y ait des jeunes qui nous appellent pour nous demander exactement comment on fait pour rentrer dans ce genre de ligue-là. Est-ce qu'il y a vraiment possibilité de gagner sa vie en faisant uniquement de ce genre de concours, donc de ce genre de compétition?
Ben, c'est sûr que la seule ligue qui a des salaires présentement en Amérique, ça s'appelle le Championship Gaming Series. Donc, les 60 joueurs qui sont dans cette ligue-là, oui, ils gagnent leur vie de cette façon-là. Mais pour ma part, c'est des ligues plus ouvertes. Donc, l'argent que je retire, c'est évidemment de l'argent pris, donc absolument de mes performances. Donc, c'est un peu de l'argent risqué, si on veut. Donc...
Mais ça gagne à peu près combien, d'après toi, par année? Un joueur, ça doit sûrement pas du tout atteindre les mêmes salaires qu'un joueur de hockey dans la ligue professionnelle, j'imagine.
Non, les joueurs qui font le plus d'argent, ça tourne autour de 100 000, 200 000 $ environ.
Quand même, c'est quand même acceptable pour vivre une vie décente.
Tu as quand même gagné, je pense, 6 000 $ là, Marc-André. Hein.
Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment une grosse différence entre, exemple, s'entraîner, finir dixième à un événement, parce que le spread, comme on dit, des prix, ben ils sont vraiment plus basés sur les premières places. Donc je connais un des joueurs notamment avec qui je m'entraîne, un Suédois qui s'appelle Fredrik Atkinson, qui lui présentement il gagne sa vie de cette façon-là, mais moi-même si je m'entraîne avec, ben, je finis légèrement plus bas, donc j'ai pas les mêmes bourses que lui. On peut pas dire que je gagne ma vie présentement à faire ça.
Dis-moi, Marc-André, t'es un athlète, t'es vraiment un cyber-athlète. Les athlètes, ça doit s'entraîner. Combien de temps tu passes, mettons, par semaine à t'entraîner?
Ça dépend vraiment. Je joue entre 0 et 6 heures par jour, en fait, parce qu'il y a des jours que je joue pas, mais plus la compétition approche ou que je ressens le besoin d'améliorer des aspects en particulier de mon jeu, ça peut aller jusqu'à 6 heures par jour. Généralement, je prends des pauses, exemple, aux 2 heures pour un peu aérer mon esprit, mettons, là, puis être sûr que je reste en bonne condition mentale.
Finalement, tu prends ça très, très, très au sérieux. Et est-ce que tu as encore du plaisir à jouer, au moins?
Oui, mais c'est sûr que le plaisir, il ne se situe pas vraiment à regarder les beaux graphiques ou à savoir à aimer les nouveaux jeux ou les nouveautés du marché. Là, ça se situe plus... au plaisir que j'ai à l'événement, à côtoyer les joueurs, mes adversaires, même qu'on ait des amis après les compétitions, etc. Fait que le fun est toujours là, mais le fun a changé de place.
Mm-hmm. On comprend ça. C'est quand c'est rendu l'entraînement, c'est rendu plus sérieux. Il y a moins de ludique, il y a plus de tension, plus de stress.
Ben, c'est sûr que j'ai des heures que j'aime jouer, que je veux jouer, mais il y a certaines heures de mon entraînement que je vais comme un peu les faire de force parce que ça fait partie de mon training puis de nombre d'heures que je me suis fixé à faire là. Ça dépend des fois.
Mais dis-moi, Marc-André, toi tu dois avoir des jeux là, préférés là, quand même si tu t'entraînes souvent, tu dois avoir des jeux que tu joues sur le side, comme on dit. C'est quoi tes jeux préférés?
J'ai pas beaucoup de jeux que je joue sur le side, mais les jeux que j'apprécie plus m'entraîner dessus, c'est des FPS vraiment rapides comme Quake et Unreal Tournament, parce que je trouve qu'il y a un petit boost d'adrénaline étant donné la vitesse du jeu, et je trouve que l'intensité est comme à un autre niveau dans ces jeux-là. Fait que c'est les jeux que je préfère pratiquer.
Les jeux d'action, les jeux rapides, les jeux où ça brasse. Écoute, je te remercie Marc-André pour cette entrevue. On rappelle que tu t'appelles Marc-André alias For Glory. On peut voir tes actions sur ton MySpace. On peut aussi aller consulter tes textes là, sur les forums de discussion, ce que tu donnes des trucs aux jeunes gens qui veulent performer aussi dans les jeux d'action. Ben, on te remercie.
OK, ben merci beaucoup les boys.
Ciao. Donc, on remercie Marc-André. Sinon, on va aller écouter une pièce. Vous êtes toujours à puissance maximale sur les ondes de CKIA 88.3.
Ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Alors, vous êtes de retour à Puissance Maximale et nous avions tout à l'heure une entrevue avec quelqu'un. Maintenant, ça va être le quiz à qui? Vous allez devoir répondre à une question très simple et vous allez pouvoir gagner un jeu. Le jeu aujourd'hui est Rainbow Six Vegas de Tom Clancy's. Donc, c'est un jeu pour la PSP, hein, donc la PlayStation Portable. Et c'est un jeu dans lequel il faut mater les dangereux terroristes qui veulent poser des bombes partout. Donc, ceux qui pourront répondre à la question suivante. Quel était le surnom de Marc-André? Si vous appelez au 529-90-26, 529-90-26, vous gagnez automatiquement le jeu Rainbow Six Vegas. Il faut être membre de Sequoia. Sinon, ben, vous pouvez le devenir membre. Sinon, on va l'écouter une autre pièce. Sélection Sébastien Léonard.
Thank you. Ah, oh. Oh.
Ouais. Place à la chronique de Mathieu Place.
Oh, c'est comme un jeu de mots. Eh oui.
Oui.
Écoute, salut Mathieu.
Bonjour, bonjour. Je suis très satisfait du petit thème là qui sert à introduire ma chronique là.
Merci.
Je me sens vraiment à la maison et puis on sent toute la puissance du média dont je veux parler là.
Mais
jeux rétro.
As-tu reconnu de quel jeu il s'agissait?
Bonne question. Question piège. Je
vais t'aider alors. Je vais te dire sur quelle console il est sorti ce jeu-là. Il s'agit de la Coleco.
Coleco? Oh non, je ne saurais pas deviner.
Okay, il est bleu, il a un chapeau blanc sur la tête et il a un tout petit short blanc aussi. Il y a une petite queue bleue derrière.
C'est un schtroumpf.
Merci, c'est ça. Et oui, c'est vraiment le jeu qui s'appelait Smurf.
Ah, ouais.
Mais schtroumpf, en français. C'est la version anglaise de schtroumpf.
Les schtroumpfs qui ont eu un gros succès aux États-Unis. Il paraît qu'à un moment donné, dans leur plage horaire, c'était l'émission qui était la plus écoutée. Au retour à la maison, là, quand les élèves revenaient à la maison, c'était l'émission la plus écoutée pendant une année ou deux. Là, c'était le gros succès américain.
Mais
là,
je peux t'assurer que ce jeu est l'un des plus plates que j'ai jamais vu. En fait, il s'agit juste de faire bouger son schtroumpf et puis de le faire sauter au-dessus d'une petite haie. C'est le seul but du jeu.
Ah ben, ok.
C'est passionnant.
Je me souviens pas d'avoir lu des à propos de haies dans les schtroumpfs, là, mais j'imagine que c'est la créativité des concepteurs qui
est... Eh oui, chacun sa créativité.
Donc Mathieu, les semaines dernières, t'es venu nous parler de Nintendo,
oui.
Comment est-ce qu'il y avait eu de la difficulté, le crash des jeux vidéo dans les années 80.
C'est vrai, on a parlé beaucoup de Nintendo dans les dernières chroniques. La dernière fois, j'avais parlé de l'année dorée de 1987, où beaucoup des grands jeux de Nintendo étaient sortis. Juste pour vous le rappeler, il y avait eu Metroid, Kid Icarus, c'était Super Mario 2 aussi qui était sorti à la même époque, et évidemment le Zelda, le premier Zelda qui était sorti. Alors beaucoup d'innovations qui ont vu le jour en 1987. Là évidemment, dans les années 80, il y avait eu Nintendo était vraiment très très puissant. C'était omniprésent au Japon, aux États-Unis, mais dans d'autres marchés, comme par exemple au Brésil et puis en Europe, il y avait un autre joueur qui était sur le marché. Est-ce que vous pouvez deviner...
Sébastien, c'est une question pour toi.
Est-ce que vous arrivez à deviner...
Parce que moi, je la connais, la réponse.
Parce que ça fait un petit moment, mais...
Un joueur qui dominait à l'époque au Brésil et
en Europe.
On parle d'un joueur ou d'une console.
C'est la compétition à Nintendo.
Oui.
Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est Adam?
Non, c'était le Sega Master System. Est-ce que vous vous souvenez de Sega Master System?
Est-ce que c'est celui avec la manette avec trois boutons?
Oui, non, ça c'était la génération d'après. Okay. Mais effectivement, dans les années 80, Sega avait déjà sorti une console pour compétitionner Nintendo, mais ça n'avait pas eu très grand succès. C'était justement dans les marchés européens et puis brésiliens qu'il avait réussi à faire sa place, mais sinon ça n'avait pas eu un très grand succès. C'est dans les années 90 que Sega, en sortant la console Genesis aux États-Unis et puis Mega Drive, qui est la même console mais la version européenne, c'est là que Sega est vraiment embarqué dans le marché et puis a été un vrai compétiteur sérieux pour Nintendo. Je vous dirais que la petite histoire de Sega est la suivante. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un des soldats américains qui était au Japon, installé au Japon, qui a vraiment apprécié le pays, puis qui s'est dit que il y avait peut-être un profit à faire les arcades au Japon.
C'est l'Américain, évidemment, il voit la pièce partout.
C'est ça, exactement. C'est dirigé comme ça, mais ça a été un bon succès parce qu'il a réussi à implanter des arcades américaines dans les bases américaines au Japon. Et puis bon, il a réussi à faire quelques bons dollars là. Et puis par la suite, il a rapatrié des États-Unis des machines à faire des photos, comme on connaît là dans les centres d'achat, où est-ce que vous mettez quelques dollars et puis vous avez des photos. Il a commencé à faire ça. Ensuite de ça, il a été marchand d'art aussi. Et puis, par la suite, dans les années 70, il s'est plus concentré sur l'arcade. Alors, Sega, ça a pris quelques années avant qu'ils puissent s'installer dans le monde de l'arcade. Ils ont fait plusieurs grands classiques de l'arcade, comme Zaxxon, qui est moins connu, mais peut-être que vous vous souvenez de Frogger, qui était jeu aussi.
Il faut traverser la rue sans se faire écraser, tout simplement.
Oui, c'est ça. Fait traverser la rue et puis se rendre jusqu'à l'espèce de petite maison, là, où est-ce qu'on pouvait sauver la petite grenouille. Alors, tranquillement, Sega a commencé à faire sa place. Et puis bon, dans les années 80, ils ont sorti le Sega Master System dont on parlait tout à l'heure, qui a pas eu un très grand succès, mais dans les années 90, ils ont totalement changé leur image et puis ils ont sorti le Genesis qui était la première console 16 bits et puis ça a vraiment propulsé Sega. Mais ce qui a fait en sorte que Sega a vraiment mis son pied dans le marché puis que ça a vraiment fonctionné, c'est l'apparition d'un nouveau personnage qui est devenu très populaire par la suite, personnage de jeu vidéo. Encore une petite devinette pour mes co-animateurs.
Est-ce que c'est celui qui est bleu avec...
Oui, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à identifier quel genre d'animal est-ce que c'est?
Ça va être une moufette. Moi, je pensais que c'était une moufette, personnellement.
Non, c'est pas une moufette. En fait, c'est un porc-épic. C'est évidemment Sonic the Hedgehog. Ah, voilà. Mais bon, évidemment, c'est un porc-épic très, très stylisé. Mais contrairement à Mario, qui était le personnage mascotte de Nintendo... bon, Mario, il est plus sympathique, il est lent, il est très sympathique pour les enfants.
Mais Sonic... le Porc-épic est un petit peu plus rebelle, je pense.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment le personnage avec une attitude, et puis il est plus hip, plus cool. C'est vraiment comme ça qu'ils ont décidé de positionner le personnage. Et puis, bon, c'est ça, j'ai lu sur le marché à cette époque-là. Et puis, Sega et Nintendo faisaient des études de marché à l'époque. Et puis, Nintendo se rendait compte qu'ils se faisaient gruger tranquillement leur marché par Sega. Et puis, ils ont fait des entrevues auprès des enfants. Et puis, pour montrer à quel point ça a vraiment fonctionné, la nouvelle image de Sega, les enfants qui étaient là avaient honte de dire qu'ils possédaient un Nintendo. C'était généralisé. Ils avaient vraiment honte de dire qu'ils possédaient un Nintendo parce que c'était considéré parmi leurs collègues de classe comme pas assez cool, pas assez hip, contrairement au Sega qui...
Qu'entre un plombier obèse puis un jeune porc-épic cool et branché qui joue de la guitare, là, le choix est assez facile à faire. Hein.
Oui, ben c'est ça, parce que j'ai l'impression que Nintendo, le succès de Mario, ça s'est fait un peu par hasard. On en a parlé quelques fois. Ça s'est fait par hasard. Les jeux étaient bons, ça a fonctionné, puis Mario est devenu la mascotte. Tandis que Genesis, Sega sont vraiment assis puis ont décidé de faire vraiment un personnage qui allait compétitionner Mario. Alors, ça a été un gros succès. À partir de 1991, Sega est allé jusqu'à posséder à peu près 65% du marché des jeux vidéo aux États-Unis, ce qui est vraiment impressionnant. Là, parce qu'on se souvient plus vraiment de cette époque-là où Sega était vraiment important, mais ça s'est rendu jusque-là. À l'époque, Nintendo, c'était le Super Nintendo qui était leur console là, qui compétitionnait avec Genesis, là, pour qu'on s'en rappelle. Par la suite, par exemple, Nintendo a fait des choix qui étaient peut-être un peu plus sensés que Genesis. Genesis a commencé à péricliter. C'est dû à deux choses surtout. Nintendo a pris sa vengeance, si on veut, puis ils sont sortis deux jeux qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Il y avait Donkey Kong Country, qui a eu plusieurs versions. Là. Il y a eu Donkey Kong Country 2, 3, ouais, c'est ça, qui était très populaire, avec des graphiques qui étaient jamais vus à l'époque. Et puis, il y avait aussi le Super Metroid qui est sorti à l'époque, dans les années 90, qui a fait un tabac auprès de Nintendo. Et puis là, ça a commencé à regruger les parts de marché de Genesis. Sauf que ce qui a vraiment planté Genesis, c'est que à un moment donné, Sega, ils étaient très forts sur l'innovation. Par exemple, c'est eux qui ont fait de la console, la première console avec des CD-ROM. C'est eux qui ont fait les premiers environnements 3D là, comme on connaît aujourd'hui. Et puis c'est même eux qui ont fait les premiers jeux en direct sur Internet à partir d'une console.
Ah ouais. Genesis.
Oui, c'est ça. Pas Genesis, mais Sega. C'est ça. C'était Sega qui avait fait toutes ces innovations-là. Mais ils sont éparpillés dans toutes sortes de consoles. À une certaine époque, au milieu des années 90, vous aviez le Genesis, vous aviez le Sega CD, le Sega 32X, le Sega Saturn, le Sega Channel. Et puis après ça, il y a eu le Dreamcast.
C'est toutes des consoles différentes?
C'est toutes des consoles différentes, sauf le Sega CD, qui était une console que vous pouviez brancher sur le Genesis. Mais c'était des jeux qui étaient indépendants. Alors,
oh boy. C'était... Donc, ils ont tous mis leurs billes partout. Et puis,
c'est ça, exactement. Fait qu'ils ont mis toutes leurs billes partout. À un moment donné, ils ne savaient plus laquelle pousser. Puis là, pendant ce temps-là, Nintendo, eux autres, ils poussaient seulement une console, le Super Nintendo. Et puis là, par la suite, évidemment, il y a le Nintendo 64 qui est sorti. Mais c'est ça, Sega, c'est vraiment éparpillé partout. On peut admirer leur innovation. Ils ont ont même essayé à un moment donné de faire un casque de réalité virtuelle. C'est vraiment fascinant, mais ça a pas très bien fonctionné. Fait que par la suite, Genesis a sorti le Dreamcast au début des années 2000. Et puis, étant donné que ça a pas eu un très grand succès, à part dans les premiers mois, là, les premiers mois, ça a eu un très bon succès parce que c'était la première console qui était aussi puissante. Mais là, après ça, PlayStation est arrivé, GameCube est arrivé, et puis ça a périclité. Et puis là, finalement, maintenant, Sega est seulement un producteur de jeux. Il fait des jeux pour d'autres consoles, tout simplement. Alors, c'est un peu la petite histoire de Sega, mais
c'est intéressant de voir que, dans le fond, Sega est originaire de toutes sortes d'innovations complètement pétées.
Oui.
Que finalement, ils ont perdu la bataille contre Nintendo, qui faisait peut-être un peu plus du travail traditionnel, disons.
Oui, exactement, c'est ça. Fait que j'imagine qu'ils ont leur place dans l'histoire des jeux vidéo là, de manière permanente, mais malheureusement... maintenant, ils ont un peu backé, là, pour utiliser un terme anglais, là, dans le marché, là, du jeu vidéo. Alors, peut-être qu'ils vont revenir, un de ces quatre, là. Mais,
ils vont sûrement se faire acheter, peut-être, par un plus gros joueur.
Peut-être, oui. Mais c'est tellement dangereux d'avoir une console et puis d'avoir des jeux aussi. Parce que la console, habituellement, ils vont la vendre à perte ou bien ils vont le vendre exactement le même prix. Et puis, c'est avec les jeux qu'ils vont faire de l'argent, avec les licences, avec tout le merchandising autour. Mais, c'est ça. Fait que si la console fonctionne pas si bien que ça, c'est un gouffre financier total, là. Alors, c'est ça. Alors, c'est l'histoire du Sega. Et puis, vous pouvez peut-être trouver quelques curiosités au travers des jeux Sega. Il y a un jeu qui s'appelle Cool Spot, qui était l'histoire du petit rond rouge que vous avez sur le logo de 7-Up. Alors, vous pouviez contrôler ça. Non, assez étrange. Vrai. Vous aviez le jeu de Wayne's World, s'il y en a qui se souviennent du film. Et puis vous aviez aussi quelques jeux qui étaient assez gore à l'époque, comme toute la série des Splatterhouse. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent.
Est-ce que c'est des jeux de 18 ans et plus?
Question horreur. C'était vraiment des jeux d'horreur. Dans les années 90, peut-être qu'on va en parler dans une prochaine chronique, là, mais il y a eu tout un scandale par rapport à l'horreur dans les jeux vidéo. Il y en a encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tous les Mortal Kombat, etc. Alors, il y a eu comme une vague qui s'est...
Ouais, c'est vrai, une vague un peu gore, peut-être.
C'est ça, un peu gore, c'est ça, qui attirait. Puis, bon, j'imagine que Nintendo et puis Sega essayaient d'attirer le marché des ados, là, justement, qui était très, très présent.
Les jeunes gens s'aiment tellement ça, voir du sang couler.
C'est ça, exactement.
Donc, on rappelle que vous êtes avec la puissance maximale. Merci, Mathieu Place.
Ça fait plaisir.
Donc, on va écouter une pièce musicale du choix de Sébastien Léonard. Et on...
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale.
Et vous êtes de retour à Puissance Maximale, toujours avec François Gicouillard au micro, Mathieu Place et Sébastien Léonard. Donc, on est maintenant dans la section Nouvelles insolites. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu? Eh bien, tout d'abord, il y a Activision qui vient de se fusionner avec Vivendi.
Oui, j'ai vu ça, oui, c'est impressionnant.
Oui.
Vivendi qui possède aussi Blizzard.
Et qui possède Blizzard, effectivement. Donc, ça va devenir en fait Activision Blizzard, tout simplement. Ils ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord ensemble. Et pour devenir, le but c'est de devenir le leader mondial dans les jeux en ligne et pour console. Donc c'est pas rien.
Ben il faut dire qu'avec les deux gros jeux qu'ils possèdent à l'heure actuelle, c'est-à-dire Activision avec Air Guitar et puis Blizzard avec World of Warcraft.
Guitar Hero.
Guitar Hero, oui c'est vrai. Air Guitar, c'est ça que je fais dans mon salon généralement.
C'était pas besoin de manette.
Non, c'est ça, pas de manette, c'est ça. Ah oui, ça peut se faire.
C'est comme la Wii, mais version encore plus sophistiquée.
Oh wow.
Donc, la nouvelle entité inscrite, Activision Blizzard, va réaliser en 2007 un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards de dollars. Le but, c'est de dépasser leur concurrent principal qui est Electronic Arts.
Oui, ben voilà. Oui, bien sûr.
Donc, on peut constater que l'industrie du jeu poursuit sa concentration. Les gros mangent tout le temps les petits. Mm-hmm. Et ça continue depuis un bout de temps. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Activision est propriétaire de Guitar Hero, mais aussi Call of Duty, la série de jeux Tony Hawk et Spider-Man.
Alors, et n'oublions pas aussi que Binox, qui est à Québec, appartient aussi à Activision.
Exactement. Donc, eux, évidemment, ça va les, ça, ils sont touchés par cette fusion-là.
Peut-être que l'industrie des jeux vidéo va finir par ressembler à l'industrie hollywoodienne où vous avez 5 ou 6 studios maximum qui contrôlent tous les films qui sont faits aux États-Unis.
Exactement. Puis moi, je dirais que c'est pas nécessairement une bonne chose. Je pense qu'à mon avis, la concentration, ça défavorise la nouveauté, le risque. C'est toujours des grosses recettes qui font ces grosses compagnies-là.
Oui, c'est sûr, mais il va toujours avoir peut-être des gars dans leur sous-sol quelque part qui vont faire quelques jeux, puis là, après, ils vont être fusionnés par la suite.
Oui, effectivement.
En tout cas, le chiffre d'affaires des jeux vidéo vient de dépasser celui du cinéma américain.
Et de loin.
Et oui.
D'ailleurs, justement, le Activision Blizzard estime détenir le portefeuille le plus diversifié et le plus important de l'industrie mondiale de divertissement interactif. Donc c'était sorti de jouer.com. Sinon, cette semaine, il y a eu la 4e édition du sommet international du jeu. Ça s'est déroulé à Montréal et ça a accueilli près de 1000 professionnels de la création de jeux vidéo. Et donc ça a été conçu pour répondre aux besoins de l'industrie du jeu qui représente plus de 4000 travailleurs au Québec. Donc, ce sommet avait 3 objectifs, accroître la visibilité et la communication dans l'industrie, améliorer le développement de l'expertise et de la main-d'œuvre, et augmenter le rayonnement de l'industrie québécoise, dans le fond, améliorer l'industrie du jeu.
Se faire connaître, faire du réseautage, etc.
Exactement. Et même, Jarrell a dit récemment, l'industrie du jeu à Montréal s'arrête de devenir le deuxième Hollywood, le Hollywood du jeu, en fait, Montréal.
Ouais, ce serait fantastique, vous imaginez? Là, ça fonctionnerait bien avec la personnalité de Montréal.
Oui, donc c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux. Sinon, il y a Eidos qui s'installe, c'est pas date à Montréal, donc encore une grosse compagnie de jeux qui s'installe à Montréal. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça bouillonne. Donc le producteur de logiciels londonien, Eidos, installe ses patates à Montréal avec l'ouverture de son 7e studio de production, où il compte investir près de 50 millions au cours des 3 prochaines années.
50 millions!
Et d'ici Noël, il prévoit être déjà une centaine d'employés. Il vient juste de s'installer. Et Monsieur Stéphane Dastou, le directeur général du nouveau studio, a aussi ajouté « En principe, nous aurons 250 employés avant la fin de 2008 et nous souhaitons être 350 pour Noël 2009. » Donc, les compagnies de jeux engagent massivement. Engagez-vous, qui disait.
C'est exponentiel.
Et le premier mandat du nouveau studio va se concentrer sur à ressusciter le jeu Deux Sexes. Est-ce que tu connais ça, Deux Sexes?
Non. Qu'est-ce que c'est?
C'est un jeu qui a été très populaire, qui mélange un peu l'aventure, le jeu de rôle et tout ça dans un espèce de monde futuriste.
Deux Sexes?
Ouais. Deux espace X.
Deux X, ok.
Ouais, ça veut dire quelque chose pour vous faire quoi?
Non, mais ce n'était pas ça.
Je me demandais quel genre de jeu ça pouvait être.
Deux X.
Deux X.
C'est
comme j'avais pas pensé. Effectivement, il y a un jeu de mots assez facile à faire avec. Et sinon, rappelons que Eidos fait partie des 10 plus importants producteurs de jeux au monde. C'est tout pour les nouvelles insolites. Maintenant, on va aller écouter une autre pièce. Sélection Sébastien Léonard. We'll be right back.
pas m'amener. Maintenant je suis un petit garçon frustré. Pour m'arranger, pour faire emprisonner.
Normal amour, et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Et oui, Normand, c'est bien Puissance Maximale. Et juste avant, on écoutait Pépé avec Poney, l'histoire d'une enfance pas facile. Sinon, c'est l'agenda ludique de la semaine. Donc, ce soir, à l'Astradamus, c'est sûr que c'est pas vraiment le temps de sortir, mais quand même.
Si vous, habitez proche, ça se fait bien, là.
À l'Astradamus, rue Couillard, comme à tous les lundis, il y a des jeux de plateau. Sinon, demain, s'il fait plus beau, ça va être les parties de Go au Café Aga. Mm-hmm. Et sinon, il y a le fanzine Puissance Maximale qui vient de sortir.
Oui, très beau, hein. Je viens de le voir, là, avec des photos sexy, hein.
La première d'ailleurs,
photo à l'intérieur.
L'édito, c'est... Être geek, c'est sexy. Et oui, je vous apprends ça à la maison. C'est vrai. C'est rendu sexy d'être geek.
Moi, j'y crois.
Donc, nous assumons notre geekitude et en même temps, nous assumons notre sexy-étude.
Oui, ben oui. Ça fonctionne ensemble, alors ouais. Soyez prêts.
Et là, il n'y a pas de mise des caméras, mais si vous voyez Mathieu, vous comprendriez tout de suite c'est quoi être geek sexy. Et sinon...
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Qu'est-ce dire d'autre? Ben, peut-être parler un peu, peut-être, qu'est-ce qu'il y a dans ce fanzine-là. Donc, vous aimez la version radio, mais il y a aussi la version papier qui va être disponible bientôt dans tous les bons gamasins de jeux de Québec et d'ailleurs. Donc, il y a, ça va être le spécial liste de Noël. Donc, on a fait la sélection des jeux que Puissance Maximale considère les meilleurs. Donc, dans les jeux de plateau, les jeux vidéo, les jeux de rôle. Et chaque chroniqueur y a mis un peu du sien. Donc, bien meilleur que le guide des jouets du Protégez-vous, n'est-ce pas? Puissance Maximale fait bien mieux.
Exactement, surtout que là, on a fait tous les tests nous-mêmes avec avec toi en plus, Mathieu.
Oui, c'est vrai, tout le monde était présent. Moi aussi, alors c'est une garantie vraiment de qualité. Là,
exactement, nous avons eu toutes les critiques possibles et imaginables. D'ailleurs, on ne devrait pas tarder à faire une émission spéciale.
Là-dessus, sur les bits, les fichiers audio qu'on a captés.
Exactement. D'autant plus qu'on a aussi décerné le fameux prix jaune cette année, qui a été décerné à qui?
Ah ben, on peut pas. Qu'est-ce qu'il faut dire?
Parce qu'on non, on le dit pas. C'est vrai, t'as raison. Ne le disons
pas. Ça va être le poche la prochaine fois.
Mais devrait-il que c'est un jeu qui est absolument extraordinaire. Le prix jaune est octroyé au jeu le plus poche de l'année. Et sinon, il y a aussi un jeu gratuit, n'est-ce pas, dans la version papier, ce mois-ci, c'est 100% Bœuf, qui est un jeu pourri. Oui. En fait, c'est selon ce que j'ai compris, c'est un jeu dans lequel on ramasse des bouts de viande sur un bœuf pour faire de la saucisse.
Ah, d'accord, ok.
Et là, la viande devient avariée et on peut faire des médicaments avec.
Puis tout ce qui est nécessaire pour jouer au jeu est dans le fanzine.
Et c'est ça, on peut même découper le fanzine, il n'y a aucun problème. Okay.
Puis en plus, ça vient compléter la série, puisque aux dernières éditions, nous avions Maximal Zombie Vomi. Ouais. Ce qui fait qu'on est vraiment toujours à peu près dans la même thématique. D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit encore du même...
MVMF.
C'est toujours MVMF, l'équipe les fameux de l'équipe de Monsieur et Madame.
Oui, monsieur, madame, oui. MVMF.net, si vous voulez en apprendre plus sur eux. C'est Mystérieuse Agence de Pointe-Noranda, le pays du métal. Sinon, le jeu poche de ce mois-ci, c'est Battle for Naboo de 3D Game. Et il y a Dr. M qui fait une analyse sur les filles dans les jeux de rôle. Et évidemment, la BD de Maxime Lepuissant. Donc, c'est ça, Puissance Maximale, papier, version papier, dans les jeux, dans les boutiques de jeux de Québec, dans la semaine.
Exemple, l'imaginaire, peut-être, vous pouvez le trouver, là.
L'imaginaire, l'Albert Donjon, les Dream City, etc., etc., etc. Donc, on va se quitter là-dessus, je crois. Donc, c'était Puissance Maximale, avec François G., Sébastien Léonard et Mathieu Place. On remercie Marc-André Forglory qu'on a appelé pour faire l'entrevue. Sinon, vous pouvez avoir plus d'informations en allant sur puissancemaximale.com. On se laisse, ça va être l'émission Homologue. Restez à l'écoute.